C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous pour justement parler d'un sujet, d'un thème qui est alléchant, nébuleux et très à la mode, mais permettez-moi de préciser un peu le thème. Je veux me pencher aujourd'hui sur l'interaction des libertés de religion et d'expression. D'une certaine façon, de réfléchir dans une perspective que je qualifierais de libéral sur cette interaction et sur le rôle du droit étatique dans l'arbitrage entre affirmation des libertés religieuses et affirmation de la liberté d'expression. Je vais me référer à deux cas de figure qui sont très à la mode. On en parle depuis longtemps, mais on continue d'en parler. C'est une source qui ne se tarit pas. D'un côté, l'affirmation de l'expression religieuse par le truchement de signes ostentatoires. De l'autre côté, la critique de la religion, l'expression parfois anti-religieuse et les demandes de censure. La demande de censure de ce type d'expression anti-religieuse et la demande de censure de l'expression religieuse de l'autre côté. Et encore récemment, dans l'arène internationale, ces questions, c'était plus la question en fait de l'expression anti-religieuse, a ressurgi devant l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a pris une résolution en 2012, la résolution 66-167, justement, qui, à travers un discours très, très lénifiant, là, du genre discours de l'Assemblée générale des Nations Unies, incitait les États à favoriser le dialogue interculturel en décourageant l'expression de critiques trop vigoureuses des religions. Et dans ce cadre-là, par exemple, on se félicitait de la création d'un centre à Vienne pour le dialogue interreligieux interculturel. On ne peut pas être contre la vertu, dont l'initiative revenait à l'Arabie saoudite sur la base des principes et buts consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je le mentionne avec un peu d'ironie, parce que nous savons tous que, évidemment, l'Arabie saoudite est un modèle en matière de respect des valeurs et des buts consacrés dans la Déclaration universelle. Et donc, je veux me pencher sur ces deux cas, le cas du religieux qui affirme sa présence dans l'espace public, et on va voir évidemment que la notion d'espace public n'est pas sans ambiguïté, et les demandes de censure qui émergent, et de l'autre côté, l'expression anti-religieuse. Il y a un argument qui revient souvent, sur lequel je vais m'attarder, qui est l'argument de l'offense, qui se décline de plusieurs façons, qui renvoie à certains arguments moraux, à des arguments politiques, à des arguments prudentiels, et je vais essayer d'analyser ces arguments. Pourquoi je parle de tumulte identitaire, hein? Parce que le titre de la conférence fait référence à des tumultes identitaires. C'est parce que dans ces deux cas auxquels je vais m'attarder aujourd'hui, on s'aperçoit évidemment que des tensions parfois assez vives font surface et témoignent de tumultes identitaires. Je ne me réfère pas nécessairement ici à des troubles de l'ordre public au sens strict, mais je me réfère à des tensions entre majorité et minorité, entre minorités elles-mêmes, des tensions au sein même des majorités ou au sein même des minorités. Donc, l'expression tumulte identitaire se réfère à plusieurs phénomènes, mais qui renvoient tous, de manière générique, à des tensions de type identitaire qui mènent parfois les personnes qui les vivent à réclamer l'intervention de l'État et la mobilisation du droit étatique pour chercher justement à amenuiser les tensions en question. J'ai dit que mon prisme serait libéral. On peut être d'accord ou non avec ce prisme-là. Là, c'est le train que je vous propose d'emprunter. Vous pouvez monter, ne pas monter, c'est pas grave, mais d'une certaine façon, vous savez que je vous annonce d'entrée de jeu, comme on dit en matière de droit des valeurs mobilières, full disclosure, je vous le dis d'entrée de jeu que le prisme est libéral. C'est évidemment un prisme qui occupe une place considérable dans le débat juridico-philosophique sur les libertés de religion et d'expression et sur le rapport qu'elles entretiennent l'une à l'autre. C'est aussi un prisme qui prend qui occupe un très grand espace dans la tradition intellectuelle nord-américaine à laquelle je me rattache primordialement. De l'adoption de ce prisme, qui n'est pas une adoption aveugle, et j'y reviendrai, découle un certain nombre de conséquences. D'une part, évidemment, les conceptions perfectionnistes de la démocratie seront vues avec une certaine suspicion. Pour l'essentiel, le perfectionnisme se réfère à cette philosophie qui veut que la société puisse imposer par le truchement de l'État qui l'incarne dans la sphère juridique et politique une conception du bien ou de la vie bonne qui est différente du juste ici, à ses membres dont la conception du bien est différente de celle de la majorité. Donc, par exemple, le paternalisme est une forme de perfectionnisme. Alors, d'un point de vue libéral, une telle position est vue avec suspicion pour plusieurs raisons. Une première raison, c'est la pluralité des conceptions parfois incommensurables du bien ou de la vie bonne. C'est aussi, le problème tient aussi aux consensus sociaux ou à la difficulté de faire émerger des consensus sociaux solides sur des idées fondamentales qui ne souffrent d'aucune ambiguïté normative, et je souligne cette dernière proposition. Évidemment, le perfectionnisme pose problème dans la mesure où il présuppose que l'État sait mieux que les individus visés par ces normes où se situe leur bien, ce qui met en cause dans une certaine mesure leur autonomie et leur liberté individuelle. C'est un élément assez important à noter. Cela dit, donc, ce scepticisme par rapport au perfectionnisme qui découle de l'adoption d'un prisme libéral ne mène pas nécessairement, dans ma conception du libéralisme, à la conclusion inéluctable que toute forme de perfectionnisme est en toute circonstance inacceptable. Il peut arriver des situations où l'autonomie individuelle est de facto contrainte au point où elle devient à toute fin pratique inexistante, et de sorte que peut être réfutée la présomption d'illégitimité des mesures perfectionnistes qui sont prises par l'État pour corriger une telle situation. De la même façon, évidemment, ce que je viens de dire se réfère plutôt à la question de la régulation juridique des signes religieux dans l'espace public, mais on peut faire un parallèle au niveau de la liberté d'expression. Vous connaissez peut-être, si vous avez un petit peu étudié le droit américain de la liberté d'expression, l'hégémonie de la métaphore du marché libre des idées. Toute expression, la vérité va nécessairement sortir du choc des différentes expressions, mais il y a beaucoup de postulats qui sont encodés dans cette métaphore et qui demeurent à être vérifiés. Donc, très très important de préciser que tout perfectionnisme n'est pas nécessairement inconcevable, mais cela renvoie à l'argument principal, je dirais, de mon texte, c'est que nous devons exiger des tenants de solutions perfectionnistes qui les justifient avec un soin tout particulier et qu'ils cherchent à identifier des raisons les plus fortes possibles au soutien des mesures de type perfectionniste qu'ils promeuvent. Et cela est extrêmement important à signaler. Je parle de la qualité des raisons qui doivent être invoquées au soutien d'une position donnée, certaines de ces raisons pouvant être meilleures que d'autres, et certaines bonnes raisons n'étant pas nécessairement des raisons fortes. Évidemment, je précise ici que le niveau de mon propos sera assez métathéorique. Je ne vais pas entrer c'est pas un exercice de droit comparé que l'on fait. On pourra discuter par la suite de questions qui intéressent plus directement le droit comparé. Et le prisme libéral que j'adopte, sachant que ce n'est pas un prisme nécessairement très populaire lorsque je viens en France et que j'en parle avec les gens, Je ne vais pas faire des annoncer des stéréotypes, mais quand même, pour venir assez souvent, je vois que parfois ça suscite des réactions. Ce n'est pas pour dire c'est mieux que ci, c'est mieux que cela. Donc, ce n'est pas une source de jugement, c'est vraiment une discussion au niveau assez métathéorique que je vous propose, et c'est important de bien comprendre. Parce que ça me rappelle un jour un juge américain de la Cour suprême qui était arrivé à un colloque international. Et qui avait pour l'essentiel, où il y avait des gens de partout, des Allemands, des Français, des Canadiens, vraiment des gens de partout, des constitutionnalistes. Et finalement, l'essentiel de son argument, c'était de dire, nous avons tout compris, vous n'avez rien compris. Votre modèle est nécessaire, est complètement vicié parce qu'il ne correspond pas à un standard X, Y ou Z. Bon, on peut retrouver ce genre de discours fréquemment venant de différents acteurs politiques, émanant de différents États. Alors, mais ce n'est pas du tout ce que je viens faire, même si la perspective que j'adopte est libérale et donc critique de certaines solutions perfectionnistes. Pour mettre en contexte aussi, également l'origine de cette réflexion, c'est que nous avons au Canada des débats assez vigoureux sur les questions que je vais évoquer. Et le fait d'être à cheval, justement, entre deux cultures donne des résultats parfois extrêmement intéressants. Par exemple, au Québec, où est situé Montréal, il y a même si le droit constitutionnel, qui est le droit constitutionnel canadien, adopte une perspective très, très libérale et très anti-perfectionniste, s'agissant, par exemple, de la saisie de la liberté de religion, encore que, il y a des va-et-vient. Mais d'une certaine façon, c'est même tellement peu perfectionniste que je le critique, comme ne l'étant pas suffisamment. Il y a aussi une mouvance politique au Québec francophone qui reprend à son compte l'argumentaire d'une laïcité forte, telle qu'on le retrouve ici en France, même si sur le plan juridique, cette perspective politique n'a pas d'ancrage, alors qu'ici, elle en a un. Mais cette réflexion émane de ce terreau où libéralisme, où perfectionnisme, anti-perfectionnisme, où libéralisme et une conception plus, appelons-la républicaine, des libertés publiques s'opposent de façon parfois très vive. Alors le contexte, c'est cela, même si le niveau de la réflexion est métathéorique. J'ajouterai, comme dernier point d'introduction, que bon. C'est une anecdote, mais j'étais en décembre à Bruxelles, à la Commission européenne, où un rapport final d'un grand projet de recherche pan-européen était déposé sur des questions intéressant la liberté d'expression, la liberté de religion, essentiellement la religion, et les deux points qui manifestement ne font absolument pas consensus et qui continuent de diviser, malgré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, malgré, des politiques d'interculturalisme, ce sont les deux points que je vais évoquer aujourd'hui, la question de la régulation des signes religieux et aussi la question de la régulation potentielle de l'expression anti-religieuse ou critique de la religion ou de la théologie. Bon, alors voici grosso modo ce dont je vais parler et le prisme à travers lequel je vais aborder mon thème. Donc, je vous disais tout à l'heure que je veux aborder un argument que l'on entend extrêmement fréquemment dans ces débats, qui est ce que j'appelle l'argument de l'offense. L'argument de l'offense est particulièrement intéressant dans la mesure où il s'agit d'un genre de fourre-tout discursif, qui interpelle, je l'ai souligné, à la fois des arguments moraux et éthico-juridiques qui participent de la rhétorique des droits humains, des arguments politiques relatifs à des valeurs sociétales et institutionnelles, ainsi que des arguments prudentiels qui sont liés de manière plus concrète au maintien de la sécurité et de l'ordre public. Alors, commençons par la question des signes religieux et ensuite on va passer à l'expression anti-religieuse. Deux questions qui soulèvent des tumultes identitaires. Alors, l'argument voulant que certains signes religieux soient intrinsèquement offensants se décline de manière différente, mais peut se résumer ainsi. Tel signe religieux devrait être proscrit, du moins dans des lieux dits publics, parce qu'il offenserait une valeur sociétale importante. Ça peut être l'égalité homme-femme, ça peut être la laïcité, ça peut être la dignité, valeurs sociétales que les citoyens, souvent à la majorité, valorisent. Bon, là-dessus, si toutes les sociétés libérales s'entendent pour consacrer d'une manière ou d'une autre le principe juridique d'égalité, bien que les conséquences normatives qui peuvent en découler peuvent varier grandement, bon, le statut juridique de l'autre principe, celui de laïcité que j'ai évoqué, est plus ambigu. Parfois, c'est un principe juridique formel, comme ici en France ou en Turquie. Parfois, la laïcité prend une dimension, je dirais, une consistance normative beaucoup plus légère, pouvant être assimilée à une espèce d'obligation de neutralité bienveillante imposée à l'État. C'est un peu la conception canadienne de la laïcité. En anglais, on y réfère comme « secularism », qui est différent de la laïcité au sens où on l'entend de manière générale en France ou en Turquie, qui renvoie à une laïcité plus forte. Ce secularism, ça, c'est aussi ce que l'on appelle, ou ce qu'appelle quelqu'un comme le sociologue Jean Bobéro, la laïcité ouverte. Certains vont dire, évidemment, une laïcité ouverte ne peut pas être une laïcité. Mais bon, c'est un autre débat. Donc, les conséquences normatives d'un principe tel que la laïcité risquent de susciter le débat. Bon, est-ce qu'il ne s'applique qu'à l'État? Dans quelle mesure? De quelle manière lie-t-il les agents de l'État? Est-ce que sa portée s'étend au-delà de l'État, entendu ici comme gouvernement, pour atteindre l'espace public en général? Comment définit-on cet espace? Quels sont les critères de définition du public? Et à cet égard, la notion d'espace public ou la définition de la notion d'espace public est largement tributaire des traditions juridiques, des traditions culturelles. J'ai publié il y a l'an dernier en Angleterre un texte là-dessus où on compare grosso modo les présupposés des traditions de common law quant à l'État, quant à la place de l'État par rapport à l'individu et des traditions romano-germaniques, surtout la française, parce qu'évidemment il y a toutes sortes de distinctions à l'intérieur de chacune des traditions, là, bon, mais une fois ce caveat important fait, il y a quand même certaines constantes qui reviennent et qui peuvent expliquer en partie comment le public et le privé, comment la démarcation entre l'un et l'autre peut se faire. Je n'entends pas donner de réponse à toutes les questions que j'ai évoquées, mais évidemment, trouver des réponses à ces questions ne va pas de soi, à moins d'être un adepte de la pensée magique. Gaston Bachelard disait « Rien n'est donné, tout est construit », et cette phrase s'applique tout à fait au concept juridique. Bon. Alors, cet argument de l'offense, s'agissant de sa mobilisation dans le cadre des débats ayant trait au contrôle ou à la censure des signes religieux dans l'espace public, s'appuie sur un certain nombre d'arguments ou de sous-arguments. D'une part, l'argument que l'on peut qualifier d'égalitaire. Certains signes religieux enverrait le message inacceptable de la soumission de la femme à l'homme. On parle évidemment du hijab, du niqab, de la burqa, etc., etc., ou du moins à un dieu dont les exigences auraient été médiatisées par des hommes dans un contexte X, Y ou Z. Selon cette approche, le hijab, on va parler de lui, là, n'est que bien accessoirement un signe religieux, c'est avant tout un signe du statut social inférieur de la femme. Évidemment, personne ne niera le statut largement inégalitaire des femmes dans plusieurs religions du monde, y incluant l'islam, mais il reste que d'un point de vue libéral, l'argument en question peut être reproblématisé. Et il est problématique à plusieurs égards. D'abord, sous un angle microscopique, parce que l'argument semble postuler de manière acritique que, un, la signification du signe religieux est évidente et univoque, que cette signification univoque encode nécessairement le message en question de la soumission de la femme à l'homme, que toutes les femmes qui portent le signe, le hijab, sont ou bien forcées de le faire, ou bien font preuve de fausse conscience en le portant. Et un certain féminisme radical reprend cette thèse, que, partant, les femmes qui le portent ne sont jamais véritablement libres de le faire, et que, pour certains, et ça c'est intéressant parce que bon, au Québec l'argument a été invoqué notamment par le Conseil du statut de la femme, que la vue d'une femme portant le hijab était, pour ces raisons, intrinsèquement offensante. Donc, la représentation de l'inégalité dont serait porteur le signe religieux est vu comme étant intrinsèquement offensant. Bon, on peut mettre en question un certain nombre de ces postulats. Il y a un confinement de la signification du signe religieux ici à sa dimension essentiellement péjorative. Bon, on peut arguer au contraire que la texture interprétative du signe peut demeurer relativement ouverte. On peut aussi arguer que celles qui portent le signe religieux peuvent parfois aussi le faire tout à fait librement. En même temps, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas toujours le cas. Et ce contre quoi, à mon sens, la personne qui adopte une perspective libérale doit s'insurger, c'est de s'en tenir à des stéréotypes, plutôt que de vérifier, d'aller voir les faits, et notamment de s'intéresser à l'expérience des personnes en cause. Et cette expérience-là risque elle-même d'être difficile à saisir parce qu'elle est multiple, elle est protéiforme. Autrement dit, la casuistique reste toujours de mise. Mais une chose que l'on ne fait pas toujours, c'est que lorsqu'il s'agit d'invoquer des raisons au soutien d'un argument en faveur de la prohibition d'un signe religieux quelconque, c'est de saisir de manière complexe les éléments factuels et contextuels pertinents. Alors, c'est une chose de prohiber de manière générale et en tout lieu, ce qui, de toute façon, d'un point de vue libéral, est difficilement concevable, un signe religieux. C'est une autre chose que de le faire dans un contexte beaucoup plus spécifique, en tenant compte des caractéristiques particulières du contexte, de ce contexte, et notamment et des finalités et de la fonctionnalité des interactions qui s'y déroulent. Autrement dit, entre l'infiniment grand, c'est-à-dire la loi générale qui prétend tout régler au regard de tous les contextes, et l'infiniment petit, le cas par cas sans aucun repère normatif adapté au contexte des interactions en question, il y a peut-être d'autres options susceptibles d'être à la fois informées par des principes, mais aussi plus efficientes, ce qui nous incite à réfléchir sur les modalités, sur les meilleures stratégies normatives à adopter pour agir d'une manière qui promeuve le plus possible les valeurs que l'on veut promouvoir, l'égalité, mais aussi la liberté de religion, la liberté d'expression religieuse et, dans le second cas, que je vais aborder en quelques minutes, la liberté d'expression même anti-religieuse. Sous l'angle des principes, toutefois, il reste qu'une société libérale doit s'efforcer de prendre au sérieux l'expression religieuse qu'elle protège, en principe, au titre des libertés fondamentales qu'elle consacre. Cependant, elle n'a pas à indemniser les croyants contre tous les coûts liés à l'exercice de leur liberté d'expression religieuse. Et la question des coûts est importante ici. Et je pense que ça pourrait mériter en soi une autre conférence. Comment mesurer les externalités qu'impose ou que n'impose pas certaines pratiques religieuses, certaines pratiques expressives religieuses, afin de les saisir en droit et de choisir ou non telle ou telle stratégie normative ou de stratégie régulatoire, c'est une question fondamentale. Bon, je passe très très vite à travers ma conférence parce que bon, j'ai beaucoup trop écrit, ça je le savais, mais bon. La question de l'autonomie aussi est très importante s'agissant de l'argument de l'offense, c'est-à-dire que la question de l'autonomie des femmes religieuses est constamment mobilisée pour dire, justement, que cette autonomie est inexistante. Alors, même si elle ne doit pas être occultée, l'autonomie des femmes religieuses ne peut pas non plus faire l'objet d'une présomption irréfragable. Or, malheureusement, et c'est un peu contre ce manichéisme contre lequel je m'élève, les débats autour du port des signes religieux oscillent souvent entre une telle présomption et une autre tout aussi irréfragable qui postule l'absence de toute autonomie individuelle chez les femmes religieuses. La première présomption, qui est celle d'une autonomie absolue ou presque, est surtout observable dans certaines saisies que je qualifierais de multiculturalistes de cette problématique, de la problématique des signes religieux. Alors que l'autre, celle qui, au contraire, vu que cette autonomie est à peu près inexistante, va être souvent très très présent dans le discours de certains tenants, soit d'une laïcité forte, soit d'une conception de l'égalité formelle plutôt que concrète des femmes en question. Dans le premier cas, alors sous prétexte de ne pas, ça c'est la saisie multiculturaliste, sous prétexte de ne pas imposer à la porteuse du signe religieux une image reproduisant des stéréotypes négatifs, souvent victimaires, on va occulter, plus ou moins consciemment, les variables contextuelles qui, dans les faits, peuvent agir de manière à réduire l'autonomie dont jouit la croyante. Alors, pourtant, si on peut présumer que le port de signes religieux découle inévitablement de pressions indues, on ne peut pas non plus présumer que de telles pressions sont inconcevables. Dans le second cas, sous prétexte de défendre, parfois malgré elle, la femme contre les conséquences inégalitaires d'une appartenance religieuse donnée, on va prôner une intervention étatique ou une défense perfectionniste de la femme religieuse va recevoir une double justification. D'abord en fonction d'une valeur abstraite, l'égalité, ensuite en fonction d'une généralisation qui est faite à propos de la condition de cette femme, sans que l'on se préoccupe de voir ce que, souvent, ce que celle-là a concrètement à dire sur son statut. Très souvent, dans les deux cas, de toute façon, l'expérience concrète des femmes est souvent évacuée. Il y a quelques années, près de 10 ans, en Ontario, au Canada, il y a eu un débat sur l'instauration, enfin, la reconnaissance des faits de droit positif aux tribunaux, aux sentences arbitrales rendues par des tribunaux islamiques. Bon, en bout de ligne, le gouvernement a dit non, on n'ira pas de l'avant sur cette question. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les personnes qui étaient le plus véhément opposées à cela, c'était les femmes musulmanes. Or, le gouvernement, bon, a créé une commission qui a fait un beau rapport, une commission gouvernementale qui a fait un très très beau rapport après avoir entendu des témoins. Et si on lit le texte du rapport en question, celles qui sont le plus absentes, ce sont justement les femmes musulmanes qui disaient non, nous ne voulons pas de reconnaissance formelle de ces tribunaux. Évidemment, le rapport concluait qu'il fallait reconnaître officiellement ces tribunaux. Donc, l'expérience concrète de la femme religieuse est souvent évacuée d'un côté comme de l'autre. Évidemment, c'est intéressant parce que ça renvoie à ce que je pourrais appeler le rapport au croire, hein, dans nos sociétés qui sont largement sécularisées et depuis longtemps. Pour quelqu'un qui n'est pas croyant ou qui l'est peu ou qui, bon, a une appartenance religieuse mais surtout culturelle, il est souvent perçu comme incompréhensible que quelqu'un tienne mordicus à porter un signe ou à afficher une appartenance religieuse. Et on dit, bah, ils ont qu'à l'enlever. Ils ont qu'à l'enlever pendant quelques heures et le tour sera joué. Ça ne paraît pas problématique d'un point de vue séculier, mais d'un point de vue religieux, ce n'est pas si simple. C'est peut-être autre chose qu'une cosmétique du croire, hein, que cette expression religieuse. Ceci aiguille en outre la question ou l'analyse vers l'attention, pardon, vers le déficit de crédibilité qui souvent va frapper les femmes croyantes lorsqu'elles expriment leur expérience. Tout ça pour dire que ça ne signifie pas qu'il soit toujours impossible de réglementer le port d'un signe religieux au motif qu'il faille respecter les subjectivités de tous ceux qui le portent. Mais il s'agit plutôt de dire que le seul fait qu'un signe paraisse offensant à certains, pour les raisons que j'ai exposées, ne constitue peut-être pas en soi une raison assez forte pour le proscrire ou en réglementer l'usage de manière draconienne. D'autres variables contextuelles doivent être prises en considération dans le cadre d'un examen qui risque, bon, qui devrait tenir compte de la polysémie des signes, mais aussi des rapports de pouvoir dans lesquels agissent ou évoluent les acteurs concernés par ce signe. C'est très important de le noter. Aucune pétition de principe ne permettra jamais de saisir adéquatement un phénomène social complexe sous l'angle juridique. D'où, à mon sens, le caractère suspect des solutions juridiques paternalistes qui prétendent tout régler par une loi d'application générale et universelle, et la naïveté d'une croyance en la capacité du droit officiel de l'État à tout résoudre les problèmes sociaux complexes et à les résoudre de manière satisfaisante et toujours efficiente. Et je ne peux pas m'empêcher de citer Jean Carbonnier dans un passage qui, à mon avis, n'a rien perdu de son actualité et qu'il publiait vers la fin des années 70. Carbonnier disait ceci. À peine apercevons-nous le mal que nous exigeons le remède, et la loi est en apparence le remède instantané. Qu'un scandale éclate, qu'un accident survienne, qu'un inconvénient se découvre, la faute en est aux lacunes de la loi. Il n'y a qu'à faire une loi de plus, et on l'a fait. Il faudrait beaucoup de courage à un gouvernement pour refuser cette satisfaction de papier à son opinion publique. Le traitement juridique des revendications religieuses et de l'expression religieuse passe souvent, à mon avis, par la pensée magique. Une fois encore, l'adoption d'un principe libéral de précaution à l'égard du paternalisme étatique ne signifie pas qu'il faille tomber dans ce que j'appelle le piège de l'hypocondrie anti-positiviste ou anti-étatique. Et cela est très, très important. Quelles sont les raisons fortes qui peuvent nous permettre de proscrire ou de réglementer l'usage de tel ou tel signe dans un contexte X ou Y? Il y en a plusieurs, mais il y a un travail des raisons qui, à mon sens, doit être clairement fait et qui souvent n'est pas fait dans les débats autour de l'expression religieuse. Je voudrais tout de suite passer au deuxième sous-thème de cette conférence qui est celui de l'expression anti-religieuse. Un des problèmes, à mon sens, d'une réglementation urbi et orbi ou généralisée des signes religieux et des pratiques d'expression religieuse ou de l'exclusion de l'expression religieuse hors de l'espace public, c'est que ce type de réglementation, souvent fondée sur l'argument de l'offense tel que j'ai défini, peut finir par se retourner contre ceux qui, tout en voulant proscrire ou réglementer l'expression religieuse, voudraient exprimer des critiques de la religion. Parce que souvent, cela va de pair. Au Canada, en tout cas, les personnes qui formulent les critiques les plus vives des religions, de l'expression religieuse, ce sont ceux, évidemment, qui demandent une intervention étatique pour réglementer le port des signes religieux, pour les raisons que j'ai mentionnées. Si on accepte de retenir l'offense à une valeur fondamentale, par exemple l'égalité homme-femme, comme motif justifiant à lui seul une réglementation, une proscription des signes religieux, alors est-ce qu'on ne peut pas imaginer que certains pourraient invoquer une autre valeur fondamentale, le respect de la liberté de religion, pour réclamer l'interdiction d'autres formes d'expression? Et c'est souvent un argument que l'on entend. Dans les débats contemporains sur le blasphème ou le contrôle de l'expression antireligieuse, la critique de la religion, la critique des figures religieuses est formulée comme une violation du droit à la liberté de religion. Vous allez me dire que sur le plan strictement juridique, c'est probablement erroné. Une liberté de religion, si on la conçoit comme une liberté négative, le droit de ne pas être entravé par des mesures étatiques, X, Y ou Z, une telle mesure négative, une liberté négative est différente d'un droit de ne pas être offensé. Mais dans l'espace du débat, cette distinction est rarement faite. Alors, non seulement elle n'est pas faite, mais en plus, on va rattacher le droit de ne pas être offensé par une critique de la religion au droit de ne pas voir l'exercice de sa liberté de religion troublée par la critique parfois virulente de la religion, des figures religieuses ou d'une théologie quelconque, au droit à la dignité du croyant. Alors, sur quelle base refuser à ceux qui, conceptualisant la liberté de religion d'une façon positive, en quelque sorte, l'invoquent au soutien d'un droit de ne pas être offensé dans leur croyance, si, justement, on a accepté ailleurs l'argument de l'offense? Donc, il faut approfondir une fois de plus les conséquences de l'argument de l'offense, notamment lorsqu'il appuie une demande de prohibition de l'expression anti-religieuse. Se pose ici la question du point de vue à partir de laquelle on appréhende cette expression anti-religieuse. Et on voit évidemment, bon, encore une fois, ce n'est pas du droit comparé, mais on voit dans la jurisprudence de différents États et de différentes juridictions qu'il y a différents modèles de saisie de cette expression. Est-ce que la perspective doit être celle du croyant, radicalement subjective du croyant? Est-ce que, au contraire, la perspective doit-elle être plus objective? Alors, est-ce que le critère par lequel on définit la propagande anti-religieuse ou l'expression anti-religieuse susceptible de régulation doit être objectif? Alors, ce qu'un observateur raisonnable estimerait être une propagande ou une expression anti-religieuse, ou est-ce qu'on doit s'en tenir à un critère subjectif, ce qu'un croyant ou le croyant visé estime être une expression anti-religieuse créatrice d'un préjudice dans son cas? Parce que la question du préjudice lié à l'argument de l'offense est extrêmement présente. On soutient, en bout de ligne, que le port d'un signe religieux, d'un côté, va causer un préjudice, défini parfois individuellement, parfois sociétalement. On va soutenir que le croyant qui se sent visé par une forme d'expression blasphématoire subit un préjudice individuel qui va bien au-delà du préjudice général que subit sa foi et sa communauté de foi. Évidemment, si on adopte une position purement subjective, on peut conclure, sans nécessairement retenir, mais on peut conclure dans une perspective subjective que l'expression anti-religieuse, voire même la simple critique générale d'une théologie quelconque ou d'une figure religieuse quelconque, prend pour le croyant une dimension performative. Loin que de n'être que l'expression d'une idée offensante, l'expression va être vue comme constitutive d'un préjudice en soi. Et d'ailleurs, si vous regardez la littérature là-dessus, en droit, en philosophie du droit, par exemple, Bhikkhu Parekh a écrit là-dessus, Tariq Maudoud a écrit là-dessus, c'est un peu l'argument qui est fait pour appuyer la thèse d'une censure plus importante, plus considérable de l'expression anti-religieuse, c'est que cette forme d'expression a une dimension performative, c'est un genre de speech act. Hein? Elle est constitutive immédiatement du préjudice que le croyant prétend subjectivement subir du fait de cette expression. Vous allez me dire que c'est peut-être un peu circulaire, mais il reste que ça fait partie du débat. Donc, c'est un élément à considérer. Cela étant dit, dans une perspective libérale, et c'est là où parfois, où ma conception du libéralisme ici va se séparer de celle que, par exemple, Bhikkhu Parekh, cet auteur anglais, va promouvoir. Moi, je pense qu'une distinction importante doit être faite entre la confrontation des valeurs d'une personne, même les valeurs les plus profondes, et la mise en cause de son humanité ou de sa dignité intrinsèque. Alors, donc, je définirais dans cette optique l'offense comme consistant à une confrontation des valeurs de la victime, de sa théologie, de sa cosmogonie, plutôt que de son humanité comme telle. Mais encore une fois, il faut bien voir qu'ici, il y a un présupposé rationaliste dans ce que je dis. Parce que, en bout de ligne, une perspective libérale présuppose un certain relativisme éthique critiquable et aussi un certain rationalisme. Parce que, on pourrait objecter que cette vision est très eurocentrique, que cette vision est extrêmement fait justement fi de l'expérience que vit le croyant qui se sent stigmatisé par l'expression anti-religieuse. En même temps, il faut bien sûr, il ne faut pas perdre de vue, je pense, et c'est là où la dimension tradition juridique au sens large prend peut-être une certaine pesanteur, que la modernité juridique, en tout cas en Occident, s'est bâtie sur la possibilité de critiquer les préceptes religieux. autant les préceptes en fait que les divinités ou les clercs qui administrent leur fonds de commerce théologique, si je puis m'exprimer ainsi. En ce sens, imposer dans ce champ de nouvelles limites juridiques à la liberté d'expression me paraît extrêmement problématique dans une perspective libérale. Autre argument qui est utilisé pour étayer l'argument général de l'offense, c'est celui du maintien de l'ordre public, pour l'essentiel. Hein? On l'entend souvent. On devrait restreindre l'expression antireligieuse parce qu'elle suscite chez ceux qui se sentent visés par elle des réactions telles que l'ordre public sera troublé, que la paix sera troublée. Bon, pensons à des exemples récents. Bon, les caricatures de Mahomet. Il y a 25 ans, bon, les versets sataniques, etc., etc. Encore une fois, je ne pense pas que d'un point de vue libéral, l'argument soit très fort. Oui, bien sûr, il faut se préoccuper de l'ordre public, de la paix, mais il reste qu'une société libérale peut exiger un effort de rationalisation de la part des citoyens. Une mise à distance momentanée, même si ce n'est pas facile, une mise à distance momentanée de leurs croyances, justement parce qu'ils savent que cette société va leur permettre à leur tour d'exprimer leurs croyances sans entrave indue. Autrement dit, il y a un argument de réciprocité qui peut être fait à ce niveau. Alors, permettez-moi de conclure là, ce vaste panorama. Alors, dire que la religion polarise nos sociétés serait un euphémisme. À mon avis, elle fait un petit peu office de paratonnerre. C'est une variable paratonnerre sur laquelle se concentrent de nombreux autres débats qui n'ont souvent qu'un lien bien ténu avec elle. Bon, on parle d'identité politique, on parle d'immigration. Bonne idée. Immigration, même terrorisme, etc. Mais il faut faire un effort pour séparer ces questions, en tout cas sur le plan analytique, de la gestion du religieux, de la gestion du croire dans nos sociétés. Il faut, à mon sens, prendre la liberté de religion très au sérieux, ne serait-ce que par son exercice et protégée à titre de liberté fondamentale. Or, moi, je ne suis pas sûr qu'une démocratie qui se prétendrait libérale la prendrait véritablement au sérieux si elle décrétait le refoulement de toutes ces manifestations, même les plus controversées dans l'espace dit privé, en se fondant sur des préjugés, des stéréotypes et des pétitions de principe maquillées souvent en arguments rationnels. Se pose évidemment la question de la définition des normes. Qui définit les normes? Qui convie-t-on à l'exercice de définition des normes? Parce qu'on a souvent recours dans ces débats à l'argument au droit de la majorité. Mais qui est la majorité? Dans une société démocratique libérale, une majorité ne peut jamais être la même. La majorité doit être fluctuante. Je devrais idéalement faire partie de la majorité sur certains sujets, de la minorité, me promener entre majorité et minorité. Le problème, c'est évidemment lorsque on se trouve à confiner certains groupes sociaux à la minorité, en les excluant d'une conversation démocratique intersubjective. Et évidemment, à mon sens, le modèle libéral que j'appelle de mes voeux et qui est idéalisé d'une certaine façon, devrait permettre ou faciliter à tout le moins une conversation qui serait plus intersubjective. Bon, mais même, et c'est là où il y a un mais qui est très important, mais même si une société libérale doit prendre la liberté de religion au sérieux, elle doit aussi prendre la liberté d'expression au sérieux et s'assurer que cette liberté d'expression, fût-elle antireligieuse, puisse concrètement être exercée sans entrave. Aussi, une telle société devrait être soucieuse de ne pas réserver de traitement privilégié à quiconque, qu'il soit religieux ou non. Alors, dans cette optique, si l'on reconnaît aux croyants la liberté d'exprimer leur appartenance religieuse par le truchement de signes les plus ostentatoires possibles, dont on ne peut qu'exceptionnellement réglementer le port, Et si, évidemment, il y a des raisons fortes de le faire, il faut aussi reconnaître aux non-religieux la plus large liberté d'exprimer leur point de vue sur la religion, même si ces points de vue heurtent leurs concitoyens religieux. Il ne faut pas perdre de vue que l'argument de l'offense que j'ai très, très brièvement et rapidement examiné aujourd'hui ne va pas à sens unique. Autant des croyants peuvent légitimement s'indigner contre telle ou telle représentation inique ou blasphématoire de leurs objets de vénération ou de leurs pratiques, autant des non-croyants peuvent légitimement s'indigner de pratiques religieuses qui, de leur point de vue, offensent des principes séculiers auxquels ils peuvent tenir autant que des croyants tiennent à leurs principes religieux. Et ça, on le perd souvent de vue. Alors, dans une société libérale, les épistémologies, qu'elles soient séculières ou religieuses, ne sauraient être au-dessus de la critique. Et l'idée de non-hiérarchisation des droits et libertés exige, sur ce plan, que l'on évite tout exceptionnalisme, qu'il soit religieux ou autre. Et j'ai un peu peur, depuis quelques années, en tout cas dans mon monde anglo-américain, qu'il y a une forme d'hiérarchie matérielle qui s'établisse entre liberté d'expression et liberté de religion, avec la liberté de religion au-dessus de la liberté de religion. Cette idée qui est relayée dans l'espace international, dans l'arène internationale, par beaucoup d'organisations importantes. Par exemple, l'organisation de la conférence islamique, avec la déclaration islamique des droits de la personne, qui prône une conception de la liberté de religion qui est très, très restrictive d'un point de vue libéral, et ainsi de suite. Bon, qui est appuyé par le Vatican à bien des égards, par des églises fondamentalistes chrétiennes des États-Unis, etc. L'approche libérale de la gestion des signes religieux dans l'espace public et aussi de la régulation de l'expression anti-religieuse cherche à rappeler à des sociétés qui se veulent libérales qu'il leur incombe une obligation plus intense de justification s'agissant de restreindre la liberté des individus. Obligation qui, manifestement, ne peut pas incomber à des sociétés qui ne se veulent pas libérales et qui ne se veulent pas non plus démocratiques. Bon, l'un n'étant pas synonyme de l'autre. Autrement dit, l'approche que je préconise renvoie d'abord à une exigence qui interpelle le travail des raisons, sa finalité étant justement la maximisation des libertés individuelles dans des limites où le raisonnable est défini de manière intersubjective, ou en tout cas le plus possible de manière intersubjective. Et évidemment, on ne peut pas tracer une frontière claire. On ne peut pas tracer une frontière claire, même si on voudrait parfois le faire. Mais le travail des raisons est extrêmement important. Ça signifie que l'État ne peut plus juger les comportements religieux, anti-religieux ou autres, et les expressions religieuses ou anti-religieuses. L'État peut encore juger de ces expressions, parfois tenter des arbitrages, mais ce que ça exige, c'est que l'État ne peut pas les juger en fonction de critères qui relèvent de l'arbitraire, de pétitions de principe ou de stéréotypes majoritaires à l'égard des minorités, alors un processus qui ignore trop souvent les faits, la manière dont les gens vivent, l'exercice concret de leur liberté et subissent également, dans une certaine mesure, l'exercice par les autres de leur propre liberté. Ça signifie surtout, et le sous-titre de ma conférence qui disait « Vers une régulation juridique ou éthique ?» point d'interrogation, renvoie précisément à ça. Ça signifie qu'il faut se méfier, à mon avis, du miroir aux alouettes que constitue parfois le recours au droit étatique pour régler les problèmes sociaux complexes, notamment ceux qui revêtent une dimension identitaire. Et de ce point de vue-là, dans le cadre de cette perspective libérale que je propose, le regard éthique que chacun pose sur ce qu'il fait ou ce qu'il dit et la prise de conscience des conséquences potentielles de son expression religieuse ou anti-religieuse peut parfois s'avérer peut-être un meilleur rempart que la norme juridique formelle qui est imposée d'en haut. Mais encore une fois, il n'y a pas de recette. Il n'y a aucune recette, mais il doit y avoir une interrogation constante. Et si une approche libérale veut dire quelque chose, d'après moi, c'est justement que doit être encouragée cette interpellation constante de nos présupposés, de nos présupposés quant à ce que constitue la liberté de religion et la liberté d'expression. Quant à l'effet de ces libertés, à la mesure des effets de l'exercice de ces libertés, et aussi quant à l'expérience concrète des citoyens. Alors, je vous remercie.